Culture Sport, le lundi soir sur Attitude, dès 19h. Les résultats complets du week-end en région, présentés par Christian.
Bonsoir à tous et bienvenue dans le flash résultat du week-end. On va revenir sur les résultats des clubs charentais, mais également des judokas charentais, puisqu'il y avait les championnats de France junior avec une belle moisson de médailles pour la couronne judo. On va commencer par le football et la CFC qui jouait vendredi soir en match avancé de National 2. Une réception de gala, puisque la CFC recevait le Dauphin, les Herbiers. Un match attendu par les Angoumoisins qui restaient sur 4 matchs sans défaite et qui avaient à cœur de faire un bon résultat contre une équipe de haut de tableau. Et score final 0-0 avec une équipe d'Angoulême qui a joué à 10 pendant presque 80 minutes, puisque malheureusement Corentin Lémoni, en position de dernier défenseur, s'est fait expulser à la 18e minute. Première mi-temps assez vivante, les deux équipes allaient d'un but à l'autre, et puis en deuxième mi-temps beaucoup moins de rythme avec une équipe d'Angoulême qui a joué plutôt bloc bas et qui a fermé les espaces pour vraiment conserver ce bon point à 10 contre 11. Et à noter d'ailleurs la très belle occasion en première mi-temps de Mamadou Guirassy, qui d'une superbe frappe détourné par le gardien des Herbiers, Rémi Piot, envoie le ballon sur la barre transversale. Et également noté à la 93e minute dans le temps additionnel, l'occasion de d'André Patrick Kiyoubi qui est bien tout proche de marquer le but, mais malheureusement sa frappe manque de puissance. Donc score final 0-0, plutôt un bon point pour Angoulême vu le scénario du match. On était dans les vestiaires à la fin du match et on va tout de suite écouter le défenseur central de la CFC, Baba Touré.
C'est souvent les scénarios qui se passent quand une équipe est réduite à 10. Les mecs savent qu'il faut faire plus d'efforts, faut faire plus de courses, que ce soit offensive, défensive. Et voilà, on savait que nous déjà, on avait un bloc difficile à bouger. Et je pense que mentalement, en étant à 10 assez tôt, on s'est dit que voilà, fallait faire un match de guerrier jusqu'au bout pour espérer obtenir au moins un point. Moi personnellement, j'en ai deux sur corner qui peuvent finir au fond. On a une grosse frappe sur la barre aussi. Et puis ouais, c'est sûr qu'à la 93e, quand on part en contre à 3 contre 1, on se dit que ça pourrait être le scénario parfait. Après, il y a des gros retours chez eux aussi. Mais ça reste un bon point quand même. On reste sur une série de 4 matchs sans défaite avec 2 victoires, 2 nuls. On s'était donné des objectifs pour la deuxième partie de saison. Pour l'instant, on y est à peu près, donc on espère continuer, que ce soit les Herbiers. On sait que contre les équipes top 4, top 5, on a eu du mal sur les matchs aller. Donc on avait à cœur de ne plus leur donner de points sur les matchs retour. Forcément, quand on enchaîne 2-3 bons résultats, on se dit qu'on peut aller chercher quelque chose. Après, on sait que ça va très vite dans les deux sens, donc pour l'instant, on va essayer de continuer sur notre série sans défaite, grappiller le plus de points et voir si on arrive à raccrocher le wagon de tête, pour pourquoi pas s'offrir une belle dernière ligne droite.
Bah, ce soir, c'était le choix contre la meilleure attaque et la meilleure défense. Finalement, c'est la défense qui a pris le pas sur l'attaque.
Ouais. Bah, on sait que quand on fait pas d'erreur, que ça soit individuel ou de placement, on est très difficile à bouger. Là, 10, je pense qu'on a été, on a augmenté tous nos niveaux de concentration et ça s'est ressenti. On leur a pas laissé beaucoup d'espace. Ils ont cherché. Et nous, on a toujours été bien en bloc et au final, on arrive à garder ce point de vue nul.
Et puis, c'est vrai que des tribunes, on a vu une première mi-temps hyper intense avec un gros rythme. Et puis, ouais, la deuxième mi-temps, paradoxalement, était beaucoup moins actif. Est-ce que toi aussi, tu l'as ressenti sur le terrain?
Ouais, exactement. Bah, après, en fait, en première, je pense que après le carton rouge, eux, ils savaient pas trop comment aborder le truc, s'ils venaient nous chercher plus haut, s'ils gardaient plus le ballon. Et nous, en deuxième, on a décidé vraiment de mettre notre bloc un peu plus bas pour leur fermer tous les espaces et après les forcer à jouer côté et bien défendre sur les centres.
Et bon, c'est ce qu'on a réussi. Et puis maintenant, un peu de vacances avant de revenir au championnat contre le Stade Bordelais.
Ouais, exactement.
Vous êtes sur 5 matchs sans défaite, du coup, 2 victoires, 3 nuls.
Ouais.
Essayer de faire perdurer cette série en Gironde.
Exactement, ouais. On sait qu'on avait mal redébuté 2023 avec la défaite à Trissac. On s'était dit les choses, là on a remis la machine en route et on espère continuer la série jusqu'au bout.
Nous étions donc avec Baba Touré, mais on était aussi avec David Giguel, l'entraîneur angoumoisin. Un David Giguel qui est satisfait de la charge de travail que ses joueurs ont accompli. Et on écoute tout de suite l'ancien entraîneur de Rouen.
On aurait préféré gagner. On a abordé ce match-là pour le gagner, pour enfin gagner contre une équipe de haut de tableau, ce qu'on n'a pas réussi à faire encore aujourd'hui. Mais bon, quand on voit effectivement le contexte du match, comment ça s'est passé avec ce rouge très rapide, ça satisfait d'un point quand même, parce que les mecs sont allés chercher vraiment au-delà d'eux-mêmes ce point-là. On aurait pu aussi le gagner, parce qu'on a eu des situations intéressantes. Je pense que leur gardien fait un très bel arrêt sur la frappe de Mamad. Donc voilà, mais dans ce genre de match, avec ce genre de contexte, quand on ne peut pas gagner, il faut savoir ne pas perdre, et c'est ce qu'on a fait ce soir. Donc félicitations à l'ensemble du groupe. Benji a fait un gros match encore, il a enfilé les kilomètres sur le GPS, donc il part en contre-attaque, il met un ballon qui est plutôt correct, après Pat cherche à frapper, lui aussi a fait un nombre de kilomètres incalculable, donc voilà, on aurait pu effectivement tuer ce match juste à la fin, comme on l'avait fait le week-end précédent. Maintenant, voilà, je trouve que dans les contenus, on est plutôt cohérent contre ce type d'équipe qui a de la qualité offensivement et défensivement. On a largement rivalisé et à 10, on ne peut pas dire qu'il nous ait vraiment dominé, puisque Pat a un arrêt à faire le reste du temps. Ça a été plutôt équilibré, donc on poursuit notre dynamique aussi, notre série de matchs sans défaite. On a encore un clean sheet de plus, on ne prend pas de but encore ce soir à 10 contre 11, une bonne partie du match. Donc c'est une bonne chose, les gars ont bien mérité de partir un petit peu en congé et voilà, on va maintenant bien se ressourcer et puis bien préparer le match au Stade Bordelais où il faudra tenter de bonifier ce bon point pris contre les Herbiers. On avait dit, on s'était réunis avec les joueurs en décembre-janvier pour se donner l'objectif de participer à la montée et d'être dans les premiers pour essayer d'aller dans ce national que beaucoup d'équipes veulent atteindre. Maintenant, il faut d'abord prendre des points pour se sauver, parce qu'avec ces 5-6 descentes qui existent, c'est un championnat très serré, très homogène et très compliqué. Donc continuons à bien bosser, continuons à engranger les points, continuons à faire tourner le compteur de façon à être le plus vite possible encore en National 2 l'année prochaine, et puis pourquoi pas aller lutter après pour les plus hautes places de ce championnat-là.
David, ce soir c'était votre 12e clean sheet de la saison, vous êtes réduit à 10 contre Gaul également ce soir, malgré tout la défense a fait le job sur ces deux rencontres notamment.
Ouais, pas que la défense, l'équipe complète. On a bien défendu, les joueurs, les excentrés ont fait un gros boulot, à l'image de Joff, qui même arrière.
Qui a fini latéral.
Ouais, qui a fini latéral gauche et qui a tout donné. Donc on a des bons gars dans ce groupe. J'oublie pas non plus les gars qui n'étaient pas là ce soir pour différentes raisons, mais qui participent aussi aux entraînements. Certains vont aller jouer demain avec la réserve. Donc voilà, on a un groupe de qualité avec des bons mecs, des compétiteurs aussi, parce que pour rester match nul à Gaulle ou contre les Herbiers à un de moins, il faut avoir des compétiteurs, des mecs généreux. Donc il faut qu'on garde ça. Et puis encore une fois, qu'on se prépare bien en profitant de ce repos qui existe, mais aussi en bossant bien une fois qu'on va rentrer pour aller chercher du point aussi au Stade Bordelais.
Et puis c'est vrai qu'on avait vu une première mi-temps très rythmée, ça partait vraiment d'un but à l'autre, alors que la deuxième mi-temps a été beaucoup moins rythmée. Comment t'expliques un peu cette baisse de rythme?
Bah, du fait qu'on soit un mois, on a un peu plus fermé les espaces, on a mis le bloc un peu plus bas, on s'est moins livré aussi parce que on sait que cette équipe a des grosses armes offensives et peut être redoutable sur des contre-attaques. Donc on a un peu plus nous fermé le jeu en essayant de les prendre en compte. Ça aurait pu fonctionner puisque sur le contre qu'on a sur la fin de match, voilà, on aurait pu et on aurait dû marquer sur ce contre-là. Donc c'est la raison pour laquelle je pense que le match a été un peu plus fermé sur le deuxième mi-temps.
Donc la CFC reste 5e au classement avec 29 points. Je vais donner les résultats des autres matchs avec la victoire d'Andrézieux contre Gaul 2-0, la victoire de Bourges contre Chamalières 2-0, la victoire de Romorantin contre Saumur 1-0, le match nul entre Nantes et Vierzon 1 partout, la victoire d'Angers contre le Stade Bordelais 2-1, la victoire de Trélissac contre Bergerac 2-1 et le match nul entre Lorient et Moulins 0-0. Au classement, les Herbiers et Gaul sont en tête avec 37 points, Bergerac est 3e avec 35 points, Angoulême est donc 5e avec 29 points, soit 5 points d'avance sur le premier relégable Romorantin, sachant que cette poule D est hyper serrée. Week-end prochain, pas de match pour Angoulême, qui se déplacera dans 15 jours du côté du Stade Bordelais. En R Régional 1, défaite malheureusement pour nos deux clubs charentais, Cognac s'incline 3-0 à domicile contre le SAM, contre l'équipe de Mérignac, une équipe de Cognac qui pourtant a un visage séduisant, qui avec une belle possession du ballon, mais malheureusement en face le SAM s'est montré hyper réaliste et l'emporte par 3 buts d'écart. Et malheureusement, courte défaite de la CFC du côté de Brive, 1-0, un but marqué sur coup franc direct à l'heure de jeu. Dommage pour les hommes de David Perrier, hein, qui n'ont pas démérité chez le leader. Au classement, la réserve de la CFC est 7e avec 22 points et Cognac est 10e avec 17 points, une poule qui est menée par Brive et par le SAM. En Régional 2, belle victoire de Leroy du côté de Châtellerault, 3-1, une victoire importante pour Leroy chez la Lanterne Rouge qui permet aux Métallos de monter sur le podium. Leroy est 3e avec 25 points, égalité avec Chauvigny le deuxième, et surtout ça fait un beau pactole d'avance sur la zone rouge, donc c'est plutôt bien parti pour le maintien. Concernant le Roi, en poule B, le derby du Cognacé a vu la victoire de Merpin contre la réserve de Cognac 3-0. Dans l'autre match, Charente-Limousine s'est incliné 1-0 contre Mini Auxence. Charente-Limousine est 4e au classement avec 24 points et Merpin 7e avec 20 points, et malheureusement Cognac est dernier avec 6 points. Enfin en poule D, Réveil de Jarnac qui s'impose à Libourne 3-2. Sirhueil et Limans font match nul 1-1. Malheureusement nos Charentais sont assez loin au classement puisque Sirhueil est 10e avec 19 points et Jarnac est 11e avec 13 points. En Régional 3 en poule C, victoire de Ruffec contre Vic-sur-Gartempe 4-0, victoire de Confolens contre Bessines-Morterolles 4-1. Les deux Charentais s'imposent largement. Ruffec 3e au classement avec 31 points. Confolens 5e avec 20 points. En poule F, la poule des Charentais, victoire de Soyaux à Ruel 2-1. Victoire de Saint-Aix à Ribérac 3-2. Victoire de Pimoyen contre Périgord-Centre 2-1. Victoire de La Roche-Rivière contre Saint-Junien 3-1. Et victoire de Vindel 4-1. À Verneuil-sur-Vienne au classement, Saint-Aix conforte sa première place avec 40 points. C'est 7 points d'avance sur Coulommiers-Chamiers. Vindel est 5e avec 22 points, Soyaux est 6e avec 22 points, 8e, La Roche-Rivière avec 17 points, 9e, Puymoyen, 17 points, 11e, Ruel avec 13 points. Enfin en poule G, la balade continue pour l'Alliance 3B, l'Alliance 3B qui s'impose 4-1 contre l'Alliance du Mauron. Bien sûr, les hommes d'Adnan El Herchi sont largement en tête avec 43 points, 14 victoires en 15 journées. Je vais donner les résultats du niveau district avec en D1 la victoire de Bassot à Brie 3-1, la victoire de Merpin contre Saint-Michel 2-1, match nul entre eux, l'Alliance 3B et les Sacs 1-1, victoire de Moutier à la Couronne 7-1, victoire également de Leroy contre les Portugais du Gond 1-0 et match nul entre Roulé et Champier 1-1. Champier qui prend la tête de la poule avec 31 points, c'est 2 points d'avance sur Saint-Michel et c'est 4 points d'avance sur Bassot. En D2, en poule A, victoire de Chasteuil 1-0 contre Ruffec, match nul entre Verdi et Aigre 2-1, victoire de Montbron 3-2 contre Mornac, match nul entre Saint-Aix et Charente-Limousine 1-1, match nul également entre Sirhueil et La Roche-Rivière 1-1, et enfin victoire de Bel Air 2-1 à Manle. Au classement, Sirhueil est toujours en tête avec 31 points, devant Chasseneuil 28 points et 3e Bel Air 24 points. Enfin en poule B, deux matchs reportés malheureusement, les matchs entre Sud-Charente et Montmoreau et entre Saint-Brice et Saint-Séverin-Palluau. Victoire de Champier 2-1 contre Châteauneuf, victoire de Ruel 5-2 à Nersac, victoire de Jarnac 3-0 contre Chazelle et victoire de Linard 2-0 contre Grande Champagne. Au classement, Linard est en tête avec 34 points, deuxième Jarnac 33 points, troisième Grande Champagne 31 points. On va rappeler la belle victoire du SA15, le bon point de bonus défensif pardon pris par le SA15 du côté d'Agen, défaite des Violets 19-15, mais une défaite très honorante hein, et qui permet de prendre un point de plus par rapport à la concurrence puisque Montauban et Carcassonne n'ont pas gagné. En national, pardon, victoire de Rennes à Cognac 13-14, c'était le match des mal classés entre les deux derniers du championnat. Et bah, malheureusement, ce sont les Bretons qui se sont imposés à Cognac 13-14. En fédéral 1, défaite de l'UBJ à Salles 36-17, compliqué pour l'UBJ. En Gironde, en basket, la Couronne basket avait un match hyper important contre Spatch Vendée. Victoire des filles d'Alex Saquet 57-49. Une victoire qui leur permet de revenir seulement à un succès de Riez, de Spatch Vendée et de Chantonnay. Donc les espoirs de maintien sont encore permis pour le LCB. Et puis en pré-nationale masculine, victoire de la CTC Grand Cognac du côté de Périgueux, victoire 67-58. Malheureusement, dans le même temps, la réserve du CSP Limoges s'impose à la SPTT Limoges. Donc le CSP reste premier à égalité de points avec la CTC Grand Cognac. Le duel continue, sachant que derrière Tulle et Étré sont en embuscade à seulement une victoire. On va parler désormais de judo avec les championnats de France junior qui se déroulaient ce week-end à l'Institut de judo à Paris. 5 couronnés étaient engagés. On va commencer par la journée du samedi avec 3 couronnés. Manon Desfarges en moins de 48 kilos qui malheureusement s'incline dès son premier combat. C'est également le cas de Fatih Dupuis en moins de 60 kilos qui s'incline également à son premier combat. Et la bonne nouvelle est venue de Marvin Bamana Kibiti qui prend le bronze après malheureusement une défaite à son deuxième combat. Marvin a fait un super parcours dans les repêchages et il a donc fait le combat pour la médaille de bronze qu'il a remporté. Et donc après sa cinquième place la saison dernière, le couronné monte sur le podium avec une très belle troisième place. Dimanche hier, donc deux couronnaises étaient en lice. C'était deux couronnaises qui avaient gagné la médaille d'argent l'an dernier. Marie Desangles en moins de 70 kilos et Ilana Bouvier en moins de 78 kilos. Marie Desangles malheureusement s'incline en demi-finale contre la future championne de France, Lila Mazzarino. Et malheureusement, elle ne gagne pas le combat pour la troisième place, donc elle termine cinquième. Et quant à Ilana Bouvier, deuxième l'an dernier, elle passe première puisqu'elle est championne de France junior. Ilana qui a fait un super parcours et qui a remporté tous ses combats. Donc pour la couronne Grand Angoulême Judo, c'est deux médailles, une médaille d'or et une médaille de bronze. C'est le même total que la saison dernière, sauf que l'an dernier, il n'y avait pas eu d'or. Donc, une belle moisson de médailles pour les judokas de Guillaume Avril. On va terminer par rapidement deux petites informations. La première, donc, c'est Clément Mignon qui faisait sa rentrée sur l'Ironman en Afrique du Sud. Et malheureusement, Clément Mignon a été contraint à l'abandon. Un incident mécanique lorsqu'il était à vélo. Et on va parler également de trail pour terminer avec Fabien Meneteau qui continue sa moisson de victoires en Charente. Le Viennois, a gagné son cinquième trail en Charente. C'était le trail de Courcôme. Victoire de Fabien Meneteau. Donc, reçu 5 sur 5, titré la Charente Libre ce matin. On se retrouve, nous, la semaine prochaine pour un nouveau Flash Résultat. En attendant, Culture Sport avec Alex Aké, l'entraîneur de la Couronne Basket. Bonne soirée. Au revoir.
Culture Sport, tout le sport en Charente, tous les lundis soirs, 19h.
Hello, hello, bonjour à tous, bienvenue sur 98.3, 90.7 et attitudefm.com. C'est votre radio pour votre émission Culture Sport, chaque lundi 19h 20h30. Nous allons parler aujourd'hui de basket avec la Couronne Basket et son coach Alex Aké. Bonjour Alex.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre émission. J'accueille Dédé. Bonjour mon Dédé, toujours fidèle au poste.
Salut Didier, salut Christian et salut coach. Oui, ça va.
J'appelle notre mentor distingué, Christian, bonjour.
Bonsoir.
Alex, ce que je te propose, c'est que tu nous fasses un résumé de aussi bref que possible sur la saison passée et avant d'attaquer sur la saison présente.
Mais du coup, la saison dernière, on a évolué au même niveau que cette année en termes de notre championnat. Donc, on était en National 3 filles. On s'est maintenu avec 9 victoires et on a eu une saison qui était particulièrement réussie parce que l'équipe avait été sauvée avec le Covid, on va dire les années précédentes, et avec le même groupe, on a réussi la performance de se maintenir dans un niveau de championnat qui est très très élevé avec beaucoup de descentes notamment.
Il y a combien de descentes cette saison ?
Il y a 4 descentes, en sachant que les 3 dernières descendent à coup sûr et qu'on peut avoir un repêchage sur la 9e place.
Si on regarde le classement à l'heure actuelle, vous êtes 10e avec 22 points, c'est ça ?
Exactement.
Donc derrière vous, il y a 2 équipes à 20 points, c'est ça aussi ?
Ouais, c'est ça.
Et donc devant vous, il y a un paquet, je crois, avec 4 équipes, c'est ça ?
Exactement, les 4 équipes vendéennes en fait sont à égalité. Et donc ça promet une fin de saison assez assez disputée et serrée.
Ouais, donc l'objectif pour vous finalement, c'est d'aller chercher ce paquet avec qui compte 2 victoires d'avance sur vous.
Exactement, oui. Et on sait qu'on termine la saison à Rievi, qui est dans ce gros péto là. Donc il faut qu'on arrive à pouvoir aller jusqu'à la fin de saison et éventuellement avoir un match décisif là-bas.
D'ailleurs, ce match vendé, donc à l'aller, vous perdez 65-51, 14 points d'écart. Quelle analyse tu fais de cette rencontre? Et puis surtout, qu'est-ce qu'il faut faire pour pallier cet écart?
On avait super bien commencé au match aller, et après on s'est laissé endormir. En fait, c'est une équipe qui a 2 joueuses très fortes. Ils ont une joueuse intérieure et une meneuse de jeu qui sont des anciennes joueuses pro et qui dominent en termes de statistiques sur l'adresse à 3 points notamment et le nombre de points marqués par match, la poule. Et en fait, tout leur jeu d'attaque est autour de ça. C'est une équipe vraiment très spécifique. Et nous, on avait su imposer notre rythme dans le premier quart-temps. Et au fur et à mesure de la rencontre, on avait fait un petit peu moins d'efforts dans les axes clés. Et surtout, on avait été fauté, notamment par notre joueuse intérieure, qui est la seule qui peut réellement défendre sur la joueuse intérieure adverse. Et donc, du coup, une fois qu'elle était sortie, bon, c'était un peu plus open bar pour elle. Et malgré les efforts défensifs qu'on a pu faire, voilà, c'est une joueuse qui a trop de talent pour notre équipe si notre intérieur ne peut pas défendre sur elle.
Donc là, du coup, tu parles de Vanessa Boussenga, je suppose.
Ouais, exactement. Ouais.
C'est important pour toi, t'appuies sur elle.
Ouais, c'est hyper important parce que la poste 5 au basket, c'est vraiment un pilier, c'est celle qui va protéger la raquette, qui doit être capable de finir, de prendre des rebonds off. Et Vanessa a vraiment des qualités dans ces domaines-là. Maintenant, en National 3, toutes les équipes ont une joueuse intérieure. Voilà, après dans les rotations, c'est toujours un peu plus compliqué. C'est difficile d'avoir plusieurs joueuses de ce calibre-là. Et du coup, nous, on a d'autres forces dans le jeu de rotation. Mais voilà, le match de Smash Vendée, ça sera aussi dans le match. Il y aura un gros duel sur le poste 5 qu'il faudra qu'il tourne à notre avantage si on veut espérer remporter le match.
Oui, et donc forcément important que Vanessa n'ait pas rapidement des fautes pour qu'elle puisse rester le plus longtemps possible sur le terrain.
Ouais, c'est ça. Voilà, au match aller, elle avait pris la quatrième faute très tôt dans le début du troisième quart-temps. Ah. Alors qu'on était, voilà, on était très bon premier, on était devant à la mi-temps de 3-4 points. Et voilà, dans le troisième quart-temps, on avait explosé parce qu'après il y a une densité physique à laquelle il faut pouvoir répondre. Et on n'avait pas su le faire là-bas.
T'évoquais un maintien tout à l'heure à 9 victoires. Est-ce que tu penses que c'est encore la jauge qu'il faut atteindre pour rentrer dans l'objectif?
Cette année, non. Je pense qu'à 8, on sera bien. Parce que la différence de l'année dernière, il y a un niveau de poule qui est vraiment plus élevé.
On voit avec La Rochelle qui a gagné tous ses matchs.
Voilà, La Rochelle qui domine tout le monde. Et après, en fait, le deuxième, le Poinçonnet qui a trois défaites, il y a déjà une marche. Il y a encore une marche avec Choré et Saran qui sont déjà à 5-6 défaites par rapport aux autres poules. Si on compare, en fait, il y a déjà beaucoup de défaites quand t'es deuxième ou troisième, ce qui est rarement le cas. Et en fait, les deux derniers de la poule qui sont Boigny et Tours sont vraiment pas des mauvaises équipes. Contrairement à l'année dernière où il y avait vraiment trois équipes qui étaient beaucoup plus faible que les autres. Donc, ce qui faisait qu'il fallait gagner beaucoup de matchs pour se maintenir. Là, à 8 victoires, on peut chercher à obtenir le maintien. Donc voilà, nous, il y a un peu le feu quand même. Et il faut qu'on, voilà, et ça passe par une victoire dimanche de toute façon, même si mathématiquement après, il va rester encore 4 matchs. Mais à domicile, ce sont des matchs qui comptent double dans la course au maintien.
Alex, comment tu expliques que vous ayez l'attaque la plus faible de la poule? C'est un manque de taille? C'est quoi?
On a eu une grosse difficulté en fait à être régulier sur le tir à longue distance. Donc le tir à 3 points, donc les équipes commencent à le savoir et on est très vite on tombe sur des zones bien compactes, sur des choses qu'on a du mal à attaquer. Enfin, pas du mal à attaquer, mais du mal à être, on va dire, efficace dans le jeu de tir et dans l'adresse, tout simplement. Et le basket, c'est un jeu d'adresse et on a un très faible pourcentage dans cette catégorie statistique-là. Donc, on a eu sur la deuxième phase un peu plus de réussite, mais voilà, la première phase a été vraiment très faible d'un point de vue offensif. Donc, malgré des défenses correctes, c'était insuffisant pour pouvoir gagner un match. Il y a un tas de matchs qu'on pouvait pas rivaliser parce que tout simplement en termes de nombre de points inscrits, c'est pas jouable. Si on n'est pas capable de marquer plus de 60 points en National 3, on risque pas de gagner un match. Hein.
Ouais, et puis c'est vrai que quand t'as un manque d'adresse à l'extérieur, bah les défenses finalement elles se concentrent plus sur ton secteur intérieur, quitte à te laisser des tirs gratuits à l'extérieur, puisque si ton pourcentage est assez faible, au final, il y a peu de chances que ça rentre.
Exactement. Donc c'est ça. Et comme Vanessa est une autre joueuse, en fait, notre leader d'attaque.
Oui. Au final, vous avez des équipes qui se concentrent surtout dans le domaine intérieur.
Ouais, c'est ça. C'est que ça, la défense se resserre. Elle est souvent très vite trappée. Enfin, il est prise à deux à chaque fois dès qu'elle a le ballon dans le poste bas. Donc quand on arrive
d'aller décaler la joueuse à trois points, c'est compliqué parce que finalement le panier rentre pas.
C'est ça, en fait, c'est qu'on y arrive. On arrive à avoir un jeu d'attaque qui est plutôt fluide, mais voilà, dans la dernière réalisation, en fait, on n'est pas assez efficace malgré un bon pourcentage de rebonds offensifs, donc on arrive à nous redonner des ballons. Mais voilà, après ça fait partie du jeu. Déjà l'année dernière, on n'était pas très très efficace dans ce domaine-là, mais cette année, on n'a pas amélioré la stat, donc ce qui fait que c'est compliqué de pouvoir exister dans certains matchs, quoi.
Pour ça, j'imagine qu'il y a des séances de shoot en semaine, mais j'imagine que pour ça, finalement, c'est prendre du shoot et encore du shoot pour s'améliorer.
Ouais, il y a une partie de répétition qui reste très importante, et il y a une partie de confiance en soi aussi qui est hyper un des facteurs obligatoires pour essayer de faire des séries et des séries collectives. Si je reprends le match de Tours, on était quand même très mal embarqué en phase retour à la mi-temps, on était quand même à -22. On a réussi à gagner le match après des prolongations, et en fait on a mis 9 tirs à 3 points en 20 minutes alors qu'on en avait jamais mis autant en 2-3 rencontres, quoi. Et ouais, c'est juste une histoire de rythme, en fait, d'attaque et de relâchement où, en fait, t'es dos au mur et de toute façon, il faut shooter avec moins de pression, quoi. Mais voilà, il y a un aspect mental, en fait, qui est aussi important à désacraliser, en fait. Et pour ça, bah, il faut travailler la semaine, il faut discuter avec les joueuses. Et même en faisant tout ce travail-là, voilà, c'est une chance sur deux, de toute façon, de pouvoir inscrire le panier.
Culture Sport, chaque lundi, 19h-20h30. Vous pouvez nous suivre également sur www.attitudefm.com. Nous retrouvons Alex Aquet, le coach de la Couronne Basket, qui répond aux questions de Christian et de Dédé. Messieurs, c'est à vous.
J'avais aussi deux observations. La première, tu parlais de Tours et de Boigny, les deux dernières. Donc, vous faites 3-4 contre-elles. Donc, j'imagine qu'il y a forcément une victoire en plus qui vous est enlevée. Et puis, deuxième constatation, entre guillemets, il y a beaucoup de matchs que vous perdez à domicile de peu contre des équipes, justement, notamment de Vendée, de ce milieu de tableau. Il y a quelques regrets sur ces matchs-là à domicile?
Ouais, il y a de toute façon un quota à aller gagner à domicile pour des équipes comme nous qu'on n'arrive pas à atteindre depuis l'année dernière. Pour moi, on gagne pas assez de matchs à la maison. Voilà, le match de Boigny notamment en début de saison où on perd de 3 points alors qu'on mène 35 minutes, mais on n'a pas réussi à finir le match et une défaite très très embêtante pour au niveau comptable. Et après on a forcément ce match contre le Poinçonnet, contre les Herbiers, même si le Poinçonnet est très bien classé, on avait fait vraiment un match très solide à domicile. Donc on fait des bons matchs, mais sur quelques détails, quelques erreurs, en fait on est un peu plus faible que l'adversaire dans la répétition, en fait, des bonnes choses offensives et défensives. Donc ce qui fait l'écart, on est aussi à notre place, et ça s'explique par rapport au niveau de la poule et à la capacité à répéter, en fait, les efforts de manière constante, et ça contre même des équipes qui sont derrière nous, ça paye pas, parce que je vous dis vraiment, Boigny et Tours, ce sont des bonnes équipes.
Quelle est la moyenne d'âge au niveau de l'effectif? Est-ce que l'effectif est également suffisante, et peut-être qu'il manquerait peut-être aussi de l'expérience?
Alors nous, on a récupéré cette année deux joueuses par rapport à l'année dernière. Une joueuse qui était revenue de grossesse, depuis qu'elle avait arrêté de jouer pendant 2-3 saisons, qui était ici au club avant, là, Marie Dubuis, qui a repris les baskets cette année. Et on a récupéré une joueuse qui était sur Poitiers, qui a fait beaucoup de 3-3, Mélissa Salvado, là, une arrière, qui nous a rejoint. Et on a perdu une joueuse, une poste 4, là, Luna Kozaska, qui est partie sur Paris pour son travail, donc on a perdu cette joueuse-là, et on a intégré deux jeunes joueuses. Donc en fait, on a un effectif de 11 aujourd'hui, avec deux jeunes joueuses. Donc c'est une joueuse de 2004 et une joueuse de 2006, donc qui ont peu d'expérience à ce niveau-là. Et après on est sur 2-9 joueuses on va dire aguerries en National 3. Mais on a plutôt une équipe qui va tourner autour de la moyenne 23-24, mais on va avoir des gros écarts entre la plus jeune qui a 16 ans et la plus vieille qui a 33, en fait. Donc il y a un gros groupe qui ont entre 21 et moins, et un petit groupe qui ont entre 27 et plus, quoi.
Oui, puis c'est aussi un groupe qui se connaît bien. Ça fait quand même plusieurs années que des joueuses comme Naïda Boitares, Marie Dubuc qui revient, mais qui avait été dans l'équipe auparavant, Marion Basperas, Marine Moncel. Enfin, ça fait des années que ces filles-là, finalement, elles jouent ensemble. Donc c'est quand même un groupe qui se connaît bien.
Ouais, c'est un groupe qui se connaît très bien, qui vit très bien ensemble. Donc c'est même dans la difficulté, enfin, en termes de résultats, on vit extrêmement bien. Donc c'est plutôt sympa, parce qu'on vit aussi des aventures humaines, et si ça se passe pas comme on veut sur le terrain, il faut que ça se passe bien en dehors pour continuer à espérer atteindre nos objectifs. On a eu en fait pas mal de blessés sur la préparation, et de ces 9 joueuses là majeures, bah les deux que je vous ai cités, la Marie Dubuis et Mélissa Salvado, ont vraiment des pépins physiques depuis le début de l'année pour diverses raisons, et ce qui fait que après en termes d'effectifs, en ayant Vanessa et une autre joueuse, Océana, qui sont en fait qui travaillent dans le milieu hospitalier, Donc il y a une irrégularité en fait en termes de présence sur les matchs, et ce qui fait que on a aussi un peu une perte de repères par rapport à ça. Donc c'est surtout pas une excuse, mais c'est une donnée qui est importante à prendre en compte. Donc heureusement que les filles connaissent bien et travaillent ensemble depuis plusieurs années, parce que ça compense un petit peu, mais c'est pas toujours suffisant.
Oui, et puis c'est vrai que quand il te manque une, deux, voire trois joueuses sur un match, ça se ressent tout de suite, malheureusement, au niveau de la rotation.
Ouais, c'est ça. On a vraiment des joueuses majeures sur lesquelles on doit pouvoir compter, et quand l'une d'entre elles est absente, ça se ressent tout de suite, même si les autres sont vraiment en progrès depuis le début de la saison. Mais quand tu joues le maintien, t'as pas un effectif qui est pléthorique et qui est nécessairement besoin de travailler constamment et de pouvoir lui laisser le temps en fait de progresser. Donc des fois il y a des formations accélérées parce qu'on est obligé de faire jouer des jeunes joueuses. Mais pour espérer gagner des matchs, c'est vraiment un niveau qui est compliqué. Donc il faut pouvoir se donner du temps, et par moment on n'en a pas suffisamment, et donc la présence des joueuses majeures est nécessaire pour pouvoir se maintenir.
D'ailleurs, tu parlais de cette remontada du côté de Tours, un match assez mémorable, prolongation, et puis vous remontez plus de 20 points d'avance. Est-ce que ça peut être vraiment le ciment, un des piliers sur lequel t'appuyer sur la fin de saison? Est-ce que ce match finalement il a construit quelque chose?
Ce match il a construit quelque chose, parce que vraiment on est rentré des vestiaires, enfin dans les vestiaires à la mi-temps, tous en se regardant et en se disant en fait on qu'est-ce qu'on fait, quoi. On n'a pas fait tous ces efforts depuis mi-août pour avoir ce genre d'attitude, surtout sur un match si important. Et en fait il y a eu un petit déclic. On était par la suite dans une phase vraiment positive. Là on rate en fait sur la phase retour souvent des cartons. Alors contre La Rochelle chez nous, on perd le premier de 10-11 points, on finit à moins 13. Là à Chantonnay, on perd le premier carton très largement, et on n'arrive pas du tout à revenir après dans le match. Voilà, il y a vraiment un carton où en fait on se trouve, on prend un vrai gros trou d'air, et derrière on n'arrive pas à revenir, et c'est dommage. Contre les Arbis à domicile, c'est le troisième, voilà, on prend 10-12 points d'écart.
Ça veut dire que foncièrement il n'y a pas forcément un gros niveau d'écart.
Non, très honnêtement,
c'est juste peut-être de la concentration à avoir en plus sur et puis de la constance sur l'intégralité d'un match à avoir.
Ouais, c'est la constance. Pour moi, ce qui nous manque, la grosse différence, c'est la constance, parce qu'on joue vraiment pas moins bien que les autres équipes. On est moins adroit, ça c'est une vraie donnée qui est très importante au basket. Mais surtout, on a par moment des manques de constance et voilà, il y a des joueuses sur lesquelles il faut défendre de manière particulière, parce que ce sont des très bonnes joueuses, il faut les couper de certaines situations, et on manque un peu de rigueur par moment dans ces consignes-là, et c'est assez frustrant en tant qu'entraîneur de savoir un peu, de chercher les points qui peuvent faire basculer le match, et que par moment on n'arrive pas à avoir cette rigueur défensive ou offensive qui nous permet de gagner des matchs. Et quand on perd des matchs au basket de moins de 10 points, c'est souvent quelques détails qui font la différence. 10 points, ça va très vite, c'est 3 possessions, donc il faut pouvoir être rigoureux pour faire basculer dans notre côté.
Adroit, ça veut également dire que peut-être la taille, le gabarit.
Adroit, non, c'est surtout une histoire de rythme en fait. L'adresse, c'est une histoire de rythme, de confiance, de coordination offensive. Moi je parle beaucoup de ça, c'est-à-dire la capacité au passeur de pouvoir faire une passe dans de bonnes conditions pour le receveur. Donc il faut réussir à se coordonner là-dedans, et il y a une histoire de mental qui est très forte. Après, en termes de densité physique, c'est vrai que nous on a Vanessa qui prend de la place dans la raquette. Le reste, ce sont pas des postes 5, mais on arrive quand même à avoir une équipe qui n'est pas dominée. Voilà, moi j'ai pas cette impression d'être dominé physiquement. Il y a une équipe qui est très impressionnante, c'est le Poinçonnet, où c'est des jeunes joueuses qui sont vraiment très très athlétiques.
Sachant que le Poinçonnet, elles sont en quoi, en leur équipe première?
C'est de la nationale 1, et okay. En fait il y a, elles se déplacent à 7 ou à 8 toujours, et il y en a 4 de ces 7 ou 8 qui jouent en nationale 1, et donc il y a c'est un autre rythme. Donc ce sont des très jeunes joueuses, et elles sont vraiment c'est des avions de chasse, hein. C'est sur tous les postes de jeu. Là, on est dominé, c'est sûr, et elles dominent toutes les équipes. Même La Rochelle, elles sont dominées physiquement par rapport à ces gamines-là. Mais nous, par rapport aux autres équipes, j'ai pas cette impression de domination physique, en tout cas.
Culture Sport, chaque lundi 19h-20h30, Vous pouvez nous suivre également sur www.attitudefm.com. Nous retrouvons Alex Aké, le coach de la couronne basket, qui répond aux questions de Christian et de Dédé. Messieurs, c'est à vous.
Ça fait plusieurs saisons maintenant que tu coaches à la couronne en National 3. Comment tu juges un peu l'évolution de ce niveau NF3? Est-ce que tu trouves que les équipes sont de plus en plus fortes ou au final c'est un niveau qui se maintient constamment?
C'est un niveau qui évolue et qui se professionnalise un petit peu. Il y a eu les garçons au même niveau qui ont passé le cap il y a 3-4 saisons et les filles, je trouve que ça se développe. Voilà, les équipes sont mieux organisées. Il y a des joueuses qui sont professionnelles dans une équipe sur deux, et des joueuses qui sont vraiment payées pour jouer au basket. Il y a des staffs qui sont mieux organisés. Voilà, il y a les clubs vraiment progressent par rapport à post Covid. Parce que moi, j'ai eu l'année, c'est la troisième saison, mais la première année, on a fait une demi, même pas un tiers de saison. Donc c'est vraiment intéressant de voir ça. Et voilà, et nous à notre échelle, il faut qu'on arrive aussi en termes de structure à pouvoir suivre le rythme, parce que c'est pas forcément lié que à l'équipe première, hein. C'est nous, c'est la vitrine, on va dire, du club, mais il y a toute une équipe de dirigeants derrière qu'il faut pouvoir voilà, eux aussi se développer et progresser au même titre que les joueuses, parce que c'est vraiment un ensemble, et quand on se maintient, quand on monte ou quand on descend, voilà, c'est un résultat du club et pas juste de 10 joueuses et un entraîneur.
Et puis c'est vrai que si le club veut se maintenir en N3 et puis se pérenniser à ce niveau où il est déjà depuis plusieurs années, il faut aussi peut-être remonter le niveau d'exigence.
Oui, je pense qu'il faut que tout le monde puisse augmenter ce niveau là d'exigence, de présence, de, on va dire, de d'éducation par rapport à la rigueur nécessaire pour continuer à évoluer là-dessus. Et par moment, on reste un peu sur des acquis. Moi, j'ai cette impression de, voilà, on a réussi à faire ça depuis 10 ans, donc on va réussir à refaire la même chose, sauf que le niveau évolue vraiment, et nous, c'est nécessaire qu'on suive le rythme, et voilà, c'est pas toujours le cas. Donc il faut des fois avoir un petit peu d'aide ou des joueuses extérieures qui peuvent venir mettre un nouveau souffle, parce que c'est une force d'avoir des joueuses qui se connaissent depuis très longtemps, mais en même temps, il faut qu'on arrive à injecter un peu de sang neuf. Donc on l'a fait cette année avec des jeunes joueuses qui apportent une certaine forme d'énergie, mais c'est toujours important de se renouveler pour pas rester sur nos acquis et chercher à se développer. C'est vraiment la clé pour moi du succès, pour pouvoir se maintenir dans ces niveaux de compétition.
D'ailleurs, en termes de recrutement, est-ce que c'est compliqué pour un club comme le LCB de recruter? Alors j'imagine qu'il y a forcément des promotions internes, que ce soit avec l'école de basket et puis l'équipe réserve qui évolue au niveau régional. Est-ce que c'est compliqué concrètement, peut-être plus compliqué pour le LCB de recruter extérieur pour de la National 3 que d'autres clubs de votre pool?
Alors nous, c'est compliqué parce que en fait en
point de vue, je termine juste ma question, ouais. Comment tu fais pour j'imagine que tu t'occupes aussi du recrutement, comment tu fais pour y parvenir justement à recruter?
Alors pour par rapport à la première question, en fait il y a une histoire de démographique, en fait où est-ce qu'on est d'un point de vue géographique. Voilà, en Angoulême, son environnement autour, et c'est vrai qu'en termes de basket, c'est assez isolé. Et du coup, nous, on a un champ d'action qui s'étend quand même jusqu'à Poitiers, voilà, Limoges, Bordeaux. Toute cette zone-là, ce sont notre zone, en fait, qui est sur un premier réseau, en fait, que moi je développe par rapport à mes saisons passées, en fait, ici, voilà, mes différents réseaux d'entraîneurs aussi et de connaissances de joueuses. Donc ça, c'est la première recherche de recrutement. C'est comme ça qu'on a récupéré Mélissa. Mais dans un deuxième temps, si on veut chercher vraiment du 109 et des joueuses peut-être d'un niveau supérieur, il faut ouvrir un peu le champ au niveau national, voire étranger. Et là, il faut avoir un budget qui le permet. Aujourd'hui, au club de la Couronne, il y a pas ce budget-là. Voilà, les dirigeants n'ont pas me donnent pas en tout cas de moyens. Alors, par moment, on peut ne pas toujours pouvoir le faire. Hein. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est nécessaire. C'est un des axes d'évolution qu'on doit pouvoir avoir, parce que à un moment donné, on va chercher à former en interne, c'est hyper intéressant, et pour pouvoir passer des caps et aller au niveau des autres qui eux évoluent et sont soit dans une meilleure situation démographique. Par exemple, quand je prends la Vendée, il y a 4 clubs qui évoluent en fait à 20 km à la ronde.
Oui, alors que vous en Charente, vous êtes la seule
équipe
fédéral, et exactement, masculin comme féminin confondu.
Voilà, donc c'est plus compliqué. Maintenant, ça veut pas dire qu'on peut pas rivaliser, mais il y a des étapes qu'on doit pouvoir avoir, et nous, le recrutement extérieur doit être un quelque chose d'important pour espérer se maintenir et voilà inculquer un peu de nouveauté au sein du club, au sein de l'équipe. Et ces dernières saisons, on a du mal à le faire. Donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles on est un peu en difficulté. Et puis les choses qui se jouent depuis longtemps, peuvent s'adapter. Hein. Quand ça fait 3-4 saisons que tu te maintiens à ce niveau-là, que tu joues les mêmes équipes, oui, et que tu ne changes pas de joueuse, bon bah on sait sur quoi t'attendre. Hein. Il n'y a pas d'effet de surprise. Comme une équipe qui monte et qui arrive, on sait pas trop, donc on découvre. Et l'année d'après, où le match retour, c'est différent. Voilà, nous, on reste dans des choses où on est assez attendu, même si on essaye d'avoir toujours des stratégies différentes. Mais la qualité des joueuses ne change pas en senior d'une année à l'autre, quoi.
L'avantage finalement de garder une ossature stable, c'est que il y a des repères, donc peut-être que ça va plus vite en préparation. Mais par contre, oui, comme tu le disais, en plus en National 3, je pense que sur les 11 adversaires, peut-être qu'il y en a 7 ou 8 qui étaient avec vous l'an passé déjà. Finalement, vous avez des repères, mais les adversaires vous connaissent aussi.
Ouais, c'est ça, c'est que ça va plus vite dans la préparation parce qu'on a déjà un fond de jeu en fait qui doit juste s'ajuster par rapport aux joueuses qu'on a perdues ou qu'on a gagné entre guillemets et surtout à avoir améliorer des repères et des réseaux de passes, de défense. Et pour ça, bon, bah, y a la prépa qui est importante et après il y a la présence sur les entraînements qui l'est aussi, voilà. Et à ce niveau-là, bah, les filles travaillent, donc elles peuvent pas toujours être présentes de manière régulière et même si on arrive à développer pas mal de choses avec les jeunes qui intègrent les entraînements de l'équipe première, bah, la répétition de ça, des blessures et par moment du travail, bah, nous empêche en fait de progresser comme on le voudrait. On aimerait qu'il y ait toutes les joueuses en forme et à tous les entraînements, mais c'est pas la réalité qu'on a nous. Et donc ce qui fait que si en plus il y a pas de sang frais, c'est difficile. Et les équipes, oui, par rapport à cette poule là, on a trois équipes qui est quatre équipes qui ont changé, le reste c'est les mêmes, donc on se connaît un peu.
98.3, 90.7, c'est votre fréquence pour Attitude en Charente. Vous nous écoutez aussi sur www.attitudefm.com. C'est Culture Sport, votre émission, chaque lundi 19h-20h30. Alex Saquet, donc, qui est le coach de la Couronne Basket, c'est lui que nous recevons aujourd'hui. Il répond aux questions, de Christian et Dédé.
Comment es-tu venu à la Couronne il y a de cela 3 ans et quel est ton passé en tant que joueur? Et puis ma deuxième question, évidemment, c'est sur le niveau de recrues. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de moyens financiers parce que à travers ces petits commentaires, j'ai bien entendu qu'il y avait pas mal d'équipes où il y avait quelques professionnels à l'intérieur de ces clubs. Et c'est vrai que de se maintenir en National 3, il va aussi falloir des moyens financiers.
Exactement, je vais répondre à la première question. Donc moi, mon parcours est rapidement, alors moi je suis strasbourgeois, donc pas du tout d'ici.
Voilà. Il y a une belle équipe à Strasbourg en tout cas.
Ouais, une belle équipe à Strasbourg. Donc moi j'ai commencé le basket là-bas grâce à un papa qui a été entraîneur pro et a joué aussi au niveau professionnel. Et donc ce qui fait qu'après lui il est parti en fait travailler en Normandie, donc j'ai suivi en Normandie, j'ai joué en championnat de France jeune, en National 3 pendant 4 saisons. Et après, j'ai passé en parallèle mes diplômes d'entraîneur. Et j'ai eu une opportunité au bout de 4 ans de travail en Normandie, où je gérais une structure de une filière féminine au sein d'une CTC, un peu ce qui se passe ici. C'est un peu les mêmes missions que là. J'ai pu avoir une offre en Charente-Maritime, où je suis allé à côté de Royan en fait pendant 7 saisons. J'étais là-bas. Et pendant ces 7 saisons, j'ai continué à passer d'autres diplômes. J'ai eu une expérience, une année en championnat de France jeune au club de Choré. Et j'ai travaillé un an au Pôle Espoir de Poitiers. Donc tout ça m'a ouvert après le réseau de la Couronne et dans lequel je suis depuis 3 saisons et où ça se passe bien.
Il me semble que tu habites toujours en Charente-Maritime, ou en tout cas tu y habitais il y a pas très l'an passé quand t'avais reçu. Quel regard tu portes justement sur cette équipe du Stade Rochelet qui est première avec 17 victoires? C'est un club ambitieux à l'image des garçons.
Ouais, je connais très bien le club de La Rochelle parce que j'ai longtemps travaillé avec leur entraîneur Mathieu Pemira et certaines joueuses, donc on se connaît très bien. Alors j'ai déménagé en Charente, c'est un peu plus facile pour les allers-retours. Et oui, c'est une saison un peu rêve rêver pour tout entraîneur, mais en fait la saison elle a démarré pour eux déjà l'année dernière en pré-national au niveau inférieur où elles avaient perdu qu'un match.
Ah oui, en plus c'est un promu,
d'accord. Voilà, c'est une équipe qui a perdu qu'une fois depuis deux ans, qui a perdu chez eux depuis pratiquement trois ans, qui a le même groupe. Donc c'est, ils surfent sur une énorme vague de confiance et de victoire. Et en plus de ça, bah, c'est une structure qui est d'un très haut niveau, avec un encadrement de haut niveau, avec des joueuses qui se plient un peu à cette rigueur-là. Parce qu'on parlait tout à l'heure, voilà, de, aussi de la structure dans laquelle on est et dans laquelle on porte le maillot. Voilà, c'est une identité, ça se respecte et les dirigeants et le club font en sorte que bah, cette équipe-là puisse atteindre le niveau National 2. Alors c'était pas forcément prévu pour cette année, mais ils y vont tout droit.
Oui. Et c'est vrai qu'avec une équipe qui je crois qu'ils sont montés en Pro B l'an passé, le Stade Rocher chez
exactement,
les hommes,
voilà,
il y a des structures, enfin elles peuvent bénéficier des structures, j'imagine aussi, peut-être même de tout ce qui est un peu physio, donc forcément on joue pas dans la même catégorie entre guillemets.
Non, exactement, ils ont le club de basket a été racheté par le club de rugby, donc c'est Stade Rochelet et basket comme Stade Rochelet rugby, c'est le même président. Donc ouais, c'est les mêmes finances, c'est voilà, c'est une association omnisport, donc il n'y a pas de eux, c'est vraiment un autre univers. Et puis on parlait de la démographie tout à l'heure, le club de La Rochelle est quand même un club situé dans une zone sûrement plus attractive qu'Angoulême, même si Angoulême est très sympa, mais le port de La Rochelle est quand même plus cool, on va dire. Donc ce qui fait que les universités et les écoles autour sont vraiment plus débordantes de jeunes, et dans le post-bac et compagnie ça attire plus, et là où nous on est un peu en difficulté, mais ça on pourra pas le modifier de toute façon.
Encore on a la chance d'avoir quand même la fac de sport à la Couronne, ce qui est pas mal quand on est un club sportif.
Exactement, la fac est. Et là, il y a beaucoup d'écoles aussi, d'infirmières qui, nous, bah, par rapport au secteur féminin, oui, nous intéressent aussi. Mais voilà, ce sont des jeunes filles qui vont aussi faire des études sur Bordeaux, sur Poitiers. Donc, on essaye de faire les, comme on peut cette année. Bon, il y a deux joueuses qui sont en alternance, une qui est sur Bordeaux, une qui est sur Niort. Donc, voilà, on essaie d'attirer quand même et de pouvoir maintenir leur présence ici, même si elles ont des études ailleurs.
Et dernière question sur le basket Rochelet, c'est plus une question de curiosité personnelle, mais il n'y avait pas un club pro avant La Rochelle, parce qu'en National 3, la Couronne jouait contre leur réserve, les Squales, il me semble.
Exactement, ça c'était.
Et qu'est-ce qu'il est devenu de ce club?
Qu'est-ce qu'il est devenu? Il n'existe plus en fait, il a été dissous par des problèmes financiers en fait, ils ont un dépôt de bilan. Donc l'association l'ABPR, c'est l'Atlantique Basket Pays Rochelet, n'existe plus. Okay. Et a été racheté via à l'époque Rupella Basket, qui a été racheté par le Stade Rochelet. En fait,
donc c'est l'ancêtre, on va dire, c'est l'ancêtre du Stade Rochelet Basket.
Exactement, c'est l'ancêtre. D'accord. Et donc en fait, les joueuses qui jouaient déjà à ces niveaux-là sont restées au sein de l'équipe dans laquelle on parle actuellement, quoi.
D'accord.
Les Rochelais sont restés à La Rochelle à des niveaux
sous un autre maillot.
Sous un autre maillot, en fait, ce sont des joueuses qui en prénat ont joué en N2. En fait, la moitié de leur équipe ont déjà joué en N2, donc en fait, voilà, c'est des fausses promues.
Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, troisième saison avec la Couronne en National 3, même si bon, forcément, la première a été très vite écourtée du fait de l'arrêt de la saison. Est-ce que toi, tu as la sensation d'avoir évolué en tant que coach aussi? Les joueuses, forcément, progressent au fil des mois, au fil des années, mais j'imagine qu'un coach aussi, ça progresse. Dans quel domaine tu t'es vu grandir?
Ouais, moi j'ai eu une super progression aussi ici d'un point de vue dans la gestion en fait d'un groupe senior. Voilà, chaque saison est différente et apporte son lot d'apprentissage, mais sur la gestion du groupe, voilà, sur l'apprentissage de ce qui est nécessaire pour développer un peu une équipe senior. Voilà, la différence avec les jeunes aussi est flagrante, notamment voilà on sait que ça progresse un peu moins bien, donc il y a un aspect tactique et hyper hyper important et là-dessus. Et puis sur les relations humaines en fait, sur du management, moi j'ai beaucoup appris de ces saisons et de ces victoires et défaites, et c'est en tout cas très très riche pour moi de pouvoir continuer à bosser avec elle cette saison.
Est-ce que vous avez un regard également sur l'avenir, c'est-à-dire sur les jeunes qui sont licenciés, qui débutent?
Ouais, alors on a, en fait, c'est ça le plus important pour nous, parce que pour toutes les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure, on est entre guillemets dans l'obligation de former des jeunes joueuses, et c'est l'identité du club de pouvoir amener une, deux joueuses par saison au sein de l'équipe première qui viennent du LCB. Moi, ça fait partie de mes missions, donc j'entraîne l'équipe U18, donc les jeunes qui évoluent en région. Donc je fais la passerelle aussi entre ces deux équipes-là et toute la formation en fait interne. Voilà, on travaille avec le club de Puymoyen, de Saint-Thierry-Aix, de Soyaux, d'Angoulême. On fait partie d'une coopération territoriale de
Ah, vous êtes aussi en CTC du coup ?
On est en CTC, voilà, de grand Angoulême basket, voilà.
C'est la même CTC que les hommes qui évoluent en R2,
et, si je dis pas de ouais, c'est la même CTC exactement, sauf que nous on est sur les filles et eux sur les garçons, mais c'est le même ouais, c'est la
d'accord,
même
parce
identité,
que vous
ouais.
Finalement vous avez gardé l'identité LCB en N3.
Ouais, en N3 parce qu'on ne peut pas en fait évoluer en sous forme de CTC à ces niveaux de compétition, sachant qu'en plus il y a pas du tout de seniors filles dans les autres clubs.
D'accord, ok. Donc ça veut dire que finalement c'est votre équipe réserve qui est en régional qui est en CTC dans ce cas-là.
Voilà, exactement. Et toutes les équipes jeunes. Moi, les 18 sont en CTC, les 15 et les 13, tout le monde est en CTC.
Et donc oui, forcément, comme c'est compliqué de recruter ailleurs, en dehors, la promotion interne, c'est hyper important. J'imagine que le but aussi d'intégrer des jeunes en début de saison, c'est aussi qu'elles progressent et puis finalement qu'on voit la progression sur une saison. Et qu'elle s'acclimate le plus rapidement possible à ce niveau de N3. Est-ce que du coup toi c'est le truc de pas trop les brûler, à pas trop leur donner de temps de jeu au début, enfin de les incorporer pardon progressivement. Enfin comment tu manages un peu tout ça?
En fait on part du projet individuel au départ sur les U18, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elles veulent faire de leurs 2 ans, 3 ans du 18. Et en fonction de ce que nous on analyse en termes de capacité et ce qu'elles veulent elles, on leur crée un projet en fait sportif adapté, soit en direction de l'équipe 2, soit en direction de l'équipe première. Et après, par rapport à ça, l'objectif est de pouvoir intégrer au départ par des séances d'entraînement, ensuite par des matchs de coupe ou des matchs amicaux, et ensuite par des matchs de championnat, en doublant toujours, en ayant beaucoup de responsabilités dans leur catégorie d'âge. Où c'est le cas d'une des jeunes joueuses qui fait beaucoup de matchs avec tout, mais qui est voilà leader en U18 et qui a pour son développement, et comme on recherche le développement de manière optimale, donc elles sont dans la meilleure catégorie, dans la meilleure adversité possible pour pouvoir progresser, c'est nécessaire pour elles de pouvoir se confronter un petit peu à du niveau senior par l'entraînement et par opportunité sur certains matchs. Ouais.
Il y a des entraînements communs entre l'équipe première et les U18 ?
Non, il n'y a pas d'entraînement commun, mais il y a des joueuses des U18 qui s'entraînent avec l'équipe première. Il y a des passerelles qui sont créées sur certaines joueuses. Parce qu'on a en U18 on a 15 filles, donc en fait on peut sinon il y a trop de monde en fait à l'entraînement au basket, à plus que 12-14 à l'entraînement, ça devient vite compliqué pour entraîner sur le terrain, donc il faut qu'on puisse équilibrer, surtout que toutes les joueuses U18 ne peuvent pas suivre le rythme de l'équipe première, donc ce serait pas leur rendre service ni pour l'équipe première ni pour les jeunes de pouvoir se confronter à ce niveau-là. C'est pour ça qu'on oriente entre l'équipe 2, l'équipe première, des entraînements, des matchs. Voilà, on essaie d'harmoniser ça pour que chacune y trouve son meilleur projet. Voilà, et pour elle, il n'y a pas un projet qui est mieux que l'autre. Hein. C'est ce qu'elles veulent faire et où elles veulent prendre du plaisir.
Oui, donc ça veut dire qu'aussi certaines filles doublent, c'est-à-dire qu'elles viennent avec vous. Parfois, elles jouent un peu, parfois elles restent sur le banc et puis elles vont soit la veille, soit le lendemain, parce que vous jouez aussi pas mal le dimanche après-midi, en réserve ou en U18.
Ouais, exactement, là, c'est le cas la configuration du match de dimanche où on jouait avec les jeunes à 13h et après avec les seniors à 15h30 et il y a une d'entre elles qui fera les deux matchs, et qui doublera avec l'équipe première.
Et donc la passerelle, si je comprends bien, elle est plus U18 première ou il y a aussi une passerelle entre la réserve et la première? Bon, j'imagine que ça dépend des filles. Tu parlais de projet personnel, mais est-ce que les deux passerelles sont équivalentes ou
non? Il y a vraiment une priorité sur les jeunes ouais. 18 N3 plutôt. Moi, je préfère, et c'est la stratégie qu'on a eue les dernières avec la joueuse, avec Salomé, la joueuse en question, de pas la faire jouer en fait en R2. Et de la faire jouer directement, attendre en fait et la faire jouer en National 3. Et on est dans le même cas de figure cette année avec une autre joueuse intérieure. Isabella, qui elle pourrait jouer en R2, mais moi je ne souhaite pas et l'attendre, continuer à la former pour qu'elle puisse être dans un niveau National 3 qui lui correspondra plus. Et la R2, il faut avoir une certaine forme de physique, déjà d'être opérationnel d'un point de vue aussi physique et aussi tactique, parce qu'on a, il y a beaucoup de situations de zone. Voilà, c'est un jeu qui est très différent. Il y a c'est pas le même, même si c'est du monde senior, c'est pas toujours intéressant pour les joueuses qui ont un bon niveau, on va dire, initial.
D'accord, oui. Donc finalement, vaut mieux qu'elles s'entraînent avec vous et qu'elles participent à la vie du groupe plutôt que d'aller en réserve sur un jeu qui est complètement différent et qui au final, oui, certes, il y aura l'appréhension du basket senior, mais finalement, il y aura que ça pratiquement.
Ouais, c'est ça. Et surtout pour répondre à leurs projets individuels, il y a des joueuses de l'équipe de mon équipe 18 qui s'entraînent, qui ont même fait quelques matchs avec l'équipe 2 et ça se passe très bien. Et elles sont prêtes déjà à jouer à ce niveau-là parce que c'est leur niveau de jeu et que ça leur correspond. Et donc du coup, c'est hyper bien de pouvoir avoir plusieurs options parce que chacun fait petit peu pas comme il veut, mais de la meilleure manière possible et on peut orienter tout le monde.
Et après, du coup, c'est aussi ton rôle d'identifier entre guillemets les potentiels qui pourront évoluer en national. Enfin, c'est aussi ton rôle vraiment d'avoir cet œil-là et de dire bah celle-là elle a ce qu'il faut pour évoluer en N3 dans quelques années.
C'est ça, on a créé, alors avant que moi j'arrive, le club a une labellisation en fait élite. Donc ça répond à un certain nombre de critères déterminés par la fédération de basket. Et en fait, moi j'ai surfé là-dessus en créant un centre d'entraînement, un mini centre de formation à l'échelle de la CTC en fait, où où j'entraîne un peu différemment, beaucoup sur le travail individuel les jeunes filles dès la catégorie U13 jusqu'à la catégorie U18 en fait, où elles ont un entraînement spécifique le lundi et un suivi spécifique pour justement avoir un suivi sur plusieurs saisons pour les plus jeunes pour pouvoir après avoir une stratégie en fait sportive pour pouvoir intégrer cette équipe première à dans 2, 3, 4, 6 ans peut-être pour les plus jeunes.
98.3, 90.7, vous êtes bien sûr Attitude, votre radio en Charente, la première radio de Charente de proximité. C'est votre émission Culture Sport, chaque lundi 19h-20h30. Vous pouvez nous suivre également sur www.attitudefm.com. Nous retrouvons Alex Aké, le coach de la Couronne Basket, qui répond aux questions de Christian et de Dédé. Messieurs, c'est à vous.
En ce qui concerne les matchs qui se déroulent le dimanche après-midi, est-ce que c'est la Fédé qui vous l'impose ou est-ce que c'est un accord avec les clubs?
C'est l'horaire officiel imposé par la fédération le dimanche à 15h30. On est dans l'obligation en fait de jouer à cet horaire-là, sauf arrangement avec les clubs où dans ce cas-là on joue le samedi soir à 20h. Mais ce sont parce que c'est les catégories de la nationale 2. Filles jouent en fait à 20h tous les samedis soirs. Mais en national 3 filles, comme en pré-national en fait, c'est comme D'accord. ça.
Comment vous vous organisez pour ou qui s'organise pour les déplacements et la composition de l'équipe? Bon, c'est toi qui l'a fait. Est-ce qu'il y a des blessés actuellement? Est-ce que l'effectif est au complet pour affronter notamment le match qui vous attend à domicile?
Concernant les déplacements, on a le président qui lui s'occupe là de réserver tout ce qui est minibus et organiser le déplacement de la meilleure manière possible. On essaie toujours de partir avec.
Ouais. Est-ce que vous avez un partenaire justement dans ces déplacements?
Alors, on travaille avec le Super U qui nous met à disposition les minibus. Il y a un partenariat avec eux. Donc, on prend avec le minibus de la Couronne, de Super U de la Couronne. Derrière, concernant l'effectif, on a une joueuse qui est blessé ce week-end. On jouera à 9 avec les deux jeunes. Donc on aura vraiment 7 joueuses aguerries au niveau et deux jeunes. Et j'ai une fille qui est blessée qui pourra pas être là et une joueuse qui est absente ce week-end. Donc voilà, on est. Mais ça c'est le lot de tous les matchs qu'on vit. On n'arrive pas à être réellement au complet. Ouais. Donc on essaie de faire le maximum toujours, mais c'est pas évident pour trouver des automatismes en fait, même si ce sont des joueuses qui se connaissent et qui travaillent ensemble depuis un moment, c'est nécessaire de pouvoir s'entraîner et jouer ensemble.
Bien sûr, moi je comprends que la Couronne Basket est en reconstruction, hein, parce que je le vois au niveau des effectifs. Bon, le projet c'est de se maintenir, si j'ai bien compris, et dans les années à venir, est-ce que vous avez une vue sur ça justement?
Ouais, le projet est de se maintenir, mais à force de dire qu'on veut juste jouer le maintien, en fait, on on joue pas grand chose parce que le maintien, en fait, deuxième est maintenu, hein. Faut savoir que entre le deuxième et la huitième place, c'était maintenu. Donc, ça veut dire quoi, je le maintiens? Et c'est souvent les objectifs qu'on a de nos dirigeants. Oh, faut se maintenir.
Ah, le maintien, c'est surtout, de pas terminer dans les quatre derniers.
Ouais, c'est ça. Mais c'est différent de jouer un maintien deuxième ou un maintien huitième.
Bien sûr.
Et ça, c'est pas les mêmes moyens, en fait, à mettre. Et en fait, quand, dans cette idée, comme on entend, de dire, voilà, on joue le maintien, c'est finir à huitième, bah, c'est jouer un peu avec le feu parce qu'on espère qu'en mettant peu de moyens ou en pouvant en mettre peu de moyens, on arrive à pérenniser cette équipe dans ce niveau de compétition. Et c'est un tort parce que on voit bien que le club de la couronne, depuis qu'elle a fait son ascension en N1, il y a 10 ans maintenant, bah, chaque année ou chaque 3-4 ans, ça descend d'un échelon. Donc, à un moment donné, il faut aussi travailler autour de ça pour pouvoir chercher à avoir un avenir à ce niveau de compétition. Voilà, on va déjà essayer de faire bonne figure sur la fin de saison. C'est ce qui nous importe avant de pouvoir se projeter sur la saison prochaine, parce qu'il va y avoir forcément des différences de projet entre une descente et un maintien, autant pour les joueuses que les dirigeants, que le staff, que j'imagine beaucoup de gens. Donc il faut espérer que cette équipe vitrine là puisse se maintenir. Voilà.
Et on ne souhaite pas, Alex, bien entendu, non. mais
malgré tout, dans le scénario catastrophe, est-ce qu'une descente en pré-national changerait beaucoup de choses pour toi sur le fait de rester au LCB et puis pour le club globalement?
Ben pour le club, ça change des choses parce que en fait, en termes de subventions et financièrement, oui. c'est très important de jouer au niveau national pour les sponsors, là pour tous les acteurs majeurs, parce qu'il faut, même si on est encore une fois dans notre équipe vitrine, il y a beaucoup de partenaires qui sont au LCB aussi parce qu'il y a un niveau de compétition qui est intéressant et qui est le plus haut de Charente. On est la seule équipe, comme vous l'avez si bien dit tout à l'heure. Donc voilà, il faut réussir à maintenir ça. Maintenant, une descente, c'est pas non plus la fin en soi. C'est peut-être la fin d'un cycle, c'est peut-être la fin de quelque chose, mais ça veut dire aussi que c'est le début d'autre chose. Et ça, après, les filles comme moi-même, on pourra faire ce bilan-là d'ici 2-3 semaines, quand on aura joué 2 matchs de plus, on saura si de toute façon on est capable de se maintenir ou pas. Donc on fera le bilan à ce niveau-là entre les joueuses qui travaillent ici, qui, quoi qu'il arrive, resteront là, ce qui feront partie de la majeure partie des joueuses, mais il y a toujours 2-3 qui sont pas forcément attachées ici. Et voilà, donc moi j'aurai une discussion avec elle au moment venu.
Oui, c'est vrai que c'est plus facile des fois de descendre que de remonter. Hein.
Ouais, c'est ça, c'est tellement dur des fois de faire des saisons que bah ça arrive, en fait, c'est pas. Et quand il y a 4 descentes, c'est-à-dire que tu peux gagner 7-8 matchs et descendre, ce qui est quand même énorme à ce niveau de compétition-là. Enfin, il faut imaginer 4 descentes sur 12 avec une montée, c'est énorme. Donc ça veut dire aussi que si on descend dernier et qu'on est laminé chaque match, bon bah c'est dangereux. Mais là c'est pas le cas. Donc ce qui fait que ça peut aussi laisser la place en disant bon bah ok, on est descendu, qu'est-ce qu'il faut mieux faire pour pouvoir chercher à remonter à court terme, et surtout si on remonte, bah se maintenir de manière plus évidente, on va dire.
L'objectif c'est de gagner ces 2 matchs contre ce match et Rier, et puis potentiellement pourquoi pas prendre un match sur les 3 autres.
Ouais, c'est ça. C'est très bien résumé. C'est qu'il faut absolument prendre ces 2 matchs-là et gagner un match sur les 3. Après, peu importe dans quel ordre on fonctionne, ouais. Mais il faudra atteindre ça au minimum, en sachant qu'on a gagné un match aller contre le Limoges ABC. Donc, on a en confiance un petit peu par rapport à ça, et que c'est un déplacement court. Donc, il n'y a pas de notion de fatigue. Enfin, tout ce qui est lié aux notions de déplacement n'existe pas à Limoges. Et en plus, on a eu des matchs serrés l'année dernière, on a su gagner chez nous un match compliqué contre une très bonne équipe. Donc on est en confiance là-dessus. Et puis, mais en tout cas, le match de Limoges, il va intervenir après celui de Smash et après celui de Choré et la réception de Saran. Donc, oui. En fait, à Limoges, même si on gagne pas au moins un des 3 prochains matchs, on pourra y aller comme on voudra, qu'on gagne ou qu'on perd, ça changera pas notre destin.
Oui, tout à fait. Il faudra prendre quoi qu'il arrive un des 3 prochains matchs, et puis oui, parce qu'au final, c'est vrai que il y a certains matchs qui basculent pas pour vous, mais qui auraient pu basculer pour vous. Il y a des défaites de une ou deux possessions au final qui vous coûtent cher, notamment contre les Herbiers par exemple. Et c'est vrai que ces matchs-là, si tu les prends, on se projette peut-être différemment sur les 5 derniers matchs qui restent au final.
Exactement. C'est super frustrant de perdre de très peu.
Ouais, de 3 et 5 points, il y a deux défaites de 3 et 5 points. Et puis il y a surtout cette défaite à domicile contre Boigny qui, quand on voit qu'elles ont que 3 victoires, même si c'est une bonne équipe, qui fait entre guillemets un peu tâche.
Ouais, c'est ça. C'est de toute façon, il faut battre les équipes qui sont derrière nous obligatoirement à domicile. Il faut sécuriser 6-7 victoires chez toi pour pouvoir espérer quelque chose. Oui. Nous, on est très loin de ça. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on a du mal à gagner à domicile. Alors pourquoi du comment ça s'explique pas
c'est,
forcément.
Donc c'est 3 victoires à domicile, 2 à l'extérieur si je me trompe pas.
Ouais, c'est ça. Voilà, mais 3 on a joué combien de matchs? On a joué 9 matchs à domicile. Donc ouais, 3-6 à domicile, ouais, c'est quand même pas terrible. C'est quand même pas terrible, donc on sait que bon, c'est protéger son terrain, National 3, c'est hyper important. On n'a pas su le faire et on savait d'entrée que la défaite de Boigny au bout de la 3e journée, de toute façon, on allait le payer jusqu'au bout.
Ouais, parce que c'était une équipe qui était attendue plutôt vers le bas.
C'est une équipe qui était promue et qui était annoncée un peu bas de tableau, même s'ils avaient gagné leur premier match, donc ils ont gagné 2 de leurs 3 premiers matchs en fait, Boigny.
D'accord.
Et après ça a explosé complètement. Il y a eu des changements de coach, bon après c'est leurs affaires.
Ah oui, ils ont battu ce match Vendée.
Et ils ont battu ce match Vendée.
Il faut s'inspirer d'eux.
Exactement, ouais, c'est pour ça que c'est une équipe qui est assez accrocheuse, notamment chez elle, là qui a poussé Choré à la prolongation. Ils ont perdu après prolongation chez eux, Boigny. Donc c'est une équipe qui est très accrocheuse, donc il faut pas les sous-estimer du tout. Mais c'est sûr que quand tu veux te maintenir, t'as pas le droit de perdre chez toi contre ce type d'équipe. Hein. Ça c'est une certitude.
La vidéo, est-ce que tu t'en sers et est-ce que tu vous filmez tous vos matchs à domicile par exemple?
Alors ouais, moi je filme tous les matchs domicile extérieur, beaucoup de travail vidéo, d'accord. Beaucoup de travail de ce qu'on appelle nous le scouting, donc de recherche d'informations sur l'adversaire avec on récupère des infos via des vidéos, des feuilles de match, il y a plein de méthodes pour pouvoir avoir le maximum d'informations sur nos adversaires et après ça il y a un doc en fait récapitulatif qui est envoyé aux joueuses pour pouvoir préparer au mieux les différentes rencontres.
Alex, nous arrivons au terme de cette émission. Encore une fois, mille merci d'avoir accepté notre invitation. C'est toujours un plaisir que de te recevoir. On va te souhaiter le meilleur pour toi et ton équipe, à savoir le maintien. On a bien compris que c'était l'enjeu majeur de cette fin de saison. Donc, bon match déjà pour celui qui vient et à tout bientôt de pouvoir te recevoir de nouveau.
Bah, merci beaucoup. C'est toujours un plaisir de vous avoir en radio et bonne fin de saison sportive à vous et au plaisir de se revoir.
Merci beaucoup Alex, bonne soirée,
merci.
Au revoir.
Merci, au revoir.